Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse est le temps de la pratiquer. Écrit Rousseau au début de la troisième promenade qui compose les rêveries du promeneur solitaire qu'il écrit à la fin de sa vie. Texte mélancolique, tantôt bouleversant, tantôt agaçant, parfois drôle. Ces rêveries philosophiques sont un enchantement de lecture dont je suis ravie de parler aujourd'hui en votre compagnie, Alain Gros-Richard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Est-ce qu'on peut lire les 10 promenades qui composent ces rêveries du promeneur solitaire de Rousseau comme autant de chemins vers la philosophie, justement?
Mais naturellement, comme des nouveaux chemins. Je crois que, en effet, ces rêveries du promeneur solitaire sont un texte éminemment philosophique, pas au sens où il contiendrait un système, mais une pratique de la philosophie qui, nous allons le voir, s'oppose radicalement et frontalement à celle de ce que Rousseau appelle les philosophes modernes, mais qui a une fonction dans l'ensemble de l'œuvre de Rousseau, on essaiera de s'expliquer là-dessus. Parlant de moi, je parle du sujet de l'énonciation d'un système extrêmement puissant, qui va des premiers discours jusqu'à Émile, mais qui se fonde sur la thèse que l'homme est né bon. Et si celui qui énonce cette thèse, l'homme est né bon, se découvre méchant, alors le système vacille et risque de s'effondrer. Voilà un petit peu le point de départ de ma lecture des rêveries et de leur place.
Alors, en route, à la rencontre de ces rêveries, de ces promenades, notre plan de route aujourd'hui, donc ce sont les troisième et quatrième promenades, en deux mots, il sera question du sens de la vie, vaste question, et des bienfaits du mensonge. On commence avec le sens de la vie. En anglais, ça se dit « the meaning of life ».
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Or perhaps we're just one of God's little jokes? Well, so say the meaning of life.
J'en ai beaucoup vu qui philosophaient bien plus doctement que moi. Mais leur philosophie leur était pour ainsi dire étrangère. Voulant être plus savants que d'autres, ils étudieront l'univers pour savoir comment il était arrangé, comme ils auraient étudié quelques machines qu'ils auraient aperçues, par pure curiosité. Ils étudieront la nature humaine pour en pouvoir parler savamment, mais non pour se connaître. Ils travaillaient pour instruire les autres, mais non pour s'éclairer en dedans. Pour moi, quand j'ai désiré d'apprendre, c'était pour savoir moi-même et non pas pour enseigner. J'ai toujours cru qu'avant d'instruire les autres, il fallait commencer par savoir assez pour soi. Et de toutes les études que j'ai tâché de faire en ma vie au milieu des hommes, il n'y en a guère que je n'eusse fait également seul sur une île déserte où j'aurais été confiné pour le reste de mes jours. Ce qu'on doit faire dépend beaucoup de ce qu'on doit croire. Et dans tout ce qui ne tient pas aux premiers besoins de la nature, nos opinions sont la règle de nos actions. Dans ce principe, qui fut toujours le mien, j'ai cherché souvent et longtemps, pour diriger l'emploi de ma vie, à connaître sa véritable fin. Et je me suis bientôt consolé de mon inaptitude à me conduire habilement dans ce monde, en sentant qu'il n'y fallait pas chercher cette fin.
Il ne faut pas chercher la fin de la vie, il ne faut pas chercher le sens ou le but de la vie. C'est un constat que Rousseau peut faire après des années, une soixantaine d'années d'expérience. On peut lire cette troisième promenade, dont on vient d'entendre le début, Alain Gros-Richard, comme une sorte de bilan, de mise au point du parcours qu'il a fait au cours des dernières années de manière philosophique et qui le distingue absolument des autres philosophes.
Oui, vous aurez noté que dans le texte qu'on vient de lire, il évoque que, parlant de sa philosophie, il me faut une philosophie pour moi. Bon, une philosophie pour moi, d'autres philosophes et ses adversaires pourraient aussi bien le dire, une philosophie pour eux. Mais le moi des philosophes qui l'attaquent, c'est un moi pétri d'amour propre. C'est le moi orgueilleux qui cherche à s'imposer aux autres, que sa doctrine soit vraie ou fausse, peu importe du moment qu'il triomphe de ses adversaires. Quand Rousseau dit « une philosophie pour moi », c'est une philosophie précisément qui m'éclaire, moi, en ce qu'il m'importe, moi, de savoir, précisément pour savoir où me conduit cette vie, si elle a un terme à ma mort ou si, au-delà, il existe quelque chose. Or, la question est fondamentale pour lui. Rappelez-vous que, à la fin de la deuxième promenade, il raconte qu'il vient d'apprendre par le journal qu'il est mort de sa chute à Ménilmontant.
À la suite de l'accident qu'il a eu, on en parlait hier avec Jean-François Perrin.
L'accident du chien.
Un gros chien danois lui fonce dedans, il tombe à terre, il perd connaissance, il se réveille plus serein et tranquille que jamais. Et il découvre qu'ensuite il est donné pour mort et il voit tous les visages qu'il croise, sont surpris de le rencontrer à nouveau.
Voilà. Et il se considère donc comme mort aux yeux de toute sa génération. Et je dirais qu'il est installé dans cette position du mort en sursis. Il est entre deux morts. Et la question, il la pose tout à fait à la fin de la dernière promenade, il dit « Dieu est juste, il veut que je souffre ». Et il sait que je suis innocent, voilà le motif de ma confiance. Mais une fois affirmé ça, il faudrait quand même être sûr que ce Dieu-là va lui offrir un dédommagement de cette souffrance qu'il lui inflige. C'est pour ça que toute cette troisième promenade, qui est une méditation sur l'histoire de sa pensée religieuse ou de sa philosophie religieuse, elle est fondamentale. Il s'agit d'arriver à cette tranquillité, cette certitude que je ne me suis pas trompé quand j'ai dit dans la profession de foi du Vieux Savoyard que Dieu est juste et que si le juste souffre dans ce monde, il sera dédommagé d'autant dans l'autre monde. Il y a ceci. Voilà l'enjeu de la troisième promenade.
L'enjeu n'est pas que religieux, cela dit, il est aussi philosophique. Le texte qu'on a entendu le montre bien.
Oui, mais pour Rousseau, la philosophie là, qui lui importe, c'est une philosophie, évidemment, qui s'oppose à l'athéisme. Hein. Quand il critique les philosophes modernes, ce sont essentiellement les gens comme Helvétius, d'Holbach, Diderot, ses ex-amis. Bon, ceux contre qui il s'est toujours opposé au nom du sentiment intérieur, de la vérité du cœur, même si, par la raison, il n'arrivait pas à les persuader que c'est eux qui avaient tort et lui qui était dans le vrai. Voilà. Ici, il s'agit d'un enjeu, je dirais, vital pour lui. Bon, faut pas dramatiser, mais quand même, cette promenade a ce côté très sérieux. Alors, je terminerai en disant, sur le fil de cette troisième promenade, que il évoque le parcours qui l'a mené à ces thèses de la profession de foi du vicaire savoyard, la religion naturelle, un dieu, qui fonde d'ailleurs la religion civile, ensuite dans le contrat social. Mais ce qui est très intéressant et qui relève de l'atmosphère des rêveries, il dit « voilà où j'en suis arrivé, comme Descartes, hein, je m'étais donné pour but, comme Descartes, au bout de 40 ans, de me fixer une bonne fois ». Un certain nombre d'opinions.
C'est 40 ans l'âge limite pour lui.
C'est 40 ans,
il fallait asseoir son opinion sur certains principes.
Voilà. Et après, il dit après, je vais dégringoler, je vais vieillir, je vais devenir gâteux. Bien. Et alors, ce qui me touche beaucoup dans cette promenade, c'est que il affirme qu'il a découvert la certitude de ce Dieu bon et qui dédommage le juste. Il l'a découverte à 40 ans après de longs efforts. Mais aujourd'hui n'est plus capable de faire cette démonstration, il n'est plus capable de démontrer si Dieu est bon ou pas, ou même s'il existe. Il dit, je l'ai cru quand j'étais en pleine forme. Maintenant, je suis devenu vieux, et finalement, c'est à moi que je crois. C'est à moi que je crois. Il croit en lui beaucoup plus qu'en Dieu. Il croit en lui qui a cru en Dieu. Et il dit, puisque j'ai cru en Dieu à ce moment-là, eh ben, je dois y croire encore maintenant. Donc, il y a une espèce de retour sur soi qui fait que, comme dans toutes les rêveries, le souvenir, c'est ça qui fonde l'identité. Là, son identité de sujet philosophique, si on peut dire, c'est par le souvenir qu'il la maintient et qu'il l'affirme.
Donc il postule une continuité dans son identité. Lui qui, dans les premières promenades, souffre justement de cet éclatement de l'identité, le fait que son identité sociale ne coïncide pas avec son intériorité. Là, il se dit, et ça le rassure et le permet d'avancer, que puisqu'il a cru, alors qu'il était dans la force de l'âge, que Dieu pouvait exister un jour et rétribuer les justes, alors, 20 ans plus tard, une soixantaine d'années, ce qui est pour lui l'âge d'un vieillard, il peut se fier à ce sentiment de certitude qu'il a eu 20 ans auparavant.
Quels que soient les doutes, les critiques, etc., qu'on peut lui faire, il y a une vérité du sentiment que sa raison n'est plus capable de démontrer, mais au fond du cœur, il le croit. Au fond, c'est une promenade qui pourrait avoir comme sous-titre, si on voulait s'amuser un peu, l'avenir d'une illusion. La formule de Freud, enfin le texte de Freud, parce que il est tout à fait conscient que ça pourrait être une illusion.
Freud qui porte sur la religion d'ailleurs.
Comment ?
Texte de Freud qui porte sur la religion d'ailleurs.
L'avenir d'une illusion. Et il est sûr, enfin il admet parfaitement que ça pourrait être une illusion et qu'il s'est complètement trompé, mais peu importe, c'est une religion consolante. Et il a foi en lui-même une fois qu'il l'a eu élaboré.
Il écrit dans cette troisième promenade, « Je quittais le monde et ses pompes, je renonçais à toutes ses vaines espérances, je renonçais à toute parure. Plus d'épée, plus de montre, plus de bas blanc, de dorure, de coiffure, une perruque toute simple, un bon gros habit de drap, et mieux que tout cela, je déracinais de mon cœur les cupidités et les convoitises qui donnent du prix à tout ce que je quittais. » On a ici une forme de réforme intérieure, hein, puisqu'on, le terme de réforme est approprié dans le contexte religieux, mais même de nouveau look. Rousseau c'est vraiment décrit comment sa tenue vestimentaire va changer suite à cette décision qu'il prend, et cette réforme morale engendre une espèce de réforme visuelle, esthétique.
Oui, vous avez tout à fait raison, sauf que c'est l'inverse. Il commence par la réforme extérieure. Ah,
d'abord, il change de perruque et ensuite...
Oui. L'habit ne fait pas le moine, ou l'habit fait le moine plutôt, et ensuite il approfondit sa réforme morale de plus en plus jusqu'à ce choix de la solitude. Ce qui est intéressant, c'est que il dit au fond, la solitude, c'est ce qui me convenait parfaitement. Quand ensuite mes ennemis m'ont séquestré du commerce des hommes, au fond, on peut dire que ils ont satisfait son désir. Et on pourrait lire le tout début de la première promenade, « Me voici donc seul sur la terre, n'ayant d'autres amis, frères, prochains, sociétés que moi-même. » Presque comme un cri de soulagement. « Me voici enfin donc seul sur la terre et environné de tout ce qui peut faire lien social. » Vous voyez la liste des termes. L'ami, le frère, bon, c'est la famille. Le prochain, c'est la religion. La société. Il a le monde autour de lui dans sa solitude. Mais c'est son monde imaginaire.
Et c'est un choix, surtout cette solitude qu'il dépeint dans les rêveries, qui est très présent dans les rêveries. Il semble parfois la présenter comme étant l'effet d'une quelque chose qu'il subit, comme le lieu d'une souffrance. Mais c'est aussi non seulement une posture, mais un choix. Il veut se retirer du monde.
Oui, il ne
le fait jamais vraiment, d'ailleurs.
Non. Il y a le Rousseau, enfin l'auteur qui écrit les rêveries du promeneur solitaire. D'ailleurs, Le Rousseau, je n'en sais même rien, parce que le manuscrit, il faudrait en parler des manuscrits, ça apprend beaucoup de choses. C'est un petit cahier, deux petits cahiers qui ne sont pas signés. À la limite, on ne sait pas qui a écrit, il y a un effacement.
Et surtout qu'il est mort avant d'avoir fini de rédiger son texte.
Oui, est-ce qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'il a abandonné ce projet? On ne sait pas, on ne sait rien. On dit qu'il a laissé tomber la plume au milieu de la dixième promenade en parlant de maman, parce que c'est très joli, mais c'est complètement imaginaire. Ça, bon, il a laissé le manuscrit des rêveries de côté, et puis ensuite il est allé à Ermenonville, il a fait des explorations botaniques, etc. Il était finalement assez heureux. Donc il y a dans, est-ce qu'il voulait même écrire un livre? Qu'est-ce qu'il voulait faire de ce qu'on a sous les yeux là? On n'en sait vraiment rien. Bon, on a un peu dérivé, mais c'est la logique de la rêverie, après tout. Revenons à votre question, peut-être.
Je me souviens d'avoir lu dans un livre de philosophie que mentir, c'est cacher une vérité que l'on doit manifester. Il suit bien de cette définition que taire une vérité quand on n'est pas obligé de dire n'est pas mentir. Mais celui qui, non content en pareil cas de ne pas dire la vérité, dit le contraire, ment-il alors ou ne ment-il pas? Selon la définition, l'on ne saurait dire qu'il ment, car s'il donne de la fausse monnaie à un homme auquel il ne doit rien, il trompe cet homme, sans doute, mais il ne le vole pas. Il se présente ici deux questions à examiner, très importantes l'une et l'autre. La première, quand et comment on doit à autrui la vérité, puisqu'on ne la doit pas toujours. La seconde, s'il est des cas où l'on puisse tromper innocemment. Ne pas dire ce qui est vrai et dire ce qui est faux sont deux choses très différentes, mais dont on peut néanmoins témoigner du résultat, car ce résultat est assurément bien le même toutes les fois que cet effet est nul. Partout où la vérité est indifférente, l'erreur contraire est indifférente aussi. D'où il suit qu'en pareil cas, celui qui trompe en disant le contraire de la vérité n'est pas plus injuste que celui qui trompe en ne la déclarant pas. Car en fait de vérités inutiles, l'erreur n'a rien de pire que l'ignorance. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, un extrait de la quatrième promenade des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau dont nous parlons cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'Alain Gros-Richard. La quatrième promenade a un enjeu très clair. Comment distinguer le mensonge de la vérité? Ça, à la limite, on peut y arriver. Mais surtout, y a-t-il des moments où l'on peut mentir? Y a-t-il des bienfaits du mensonge? Et le mensonge est-il toujours condamnable? Le texte que je viens de lire le donne bien à entendre. C'est qu'en fait, Rousseau, sur ce point-là, et parfois ambigu, c'est que l'insistance qu'il met à essayer de justifier que parfois le mensonge est obligatoire est louche, ça crée un effet comique qui est indéniable pour le lecteur.
Oui, alors cette quatrième promenade, elle est extrêmement complexe et on a le sentiment que Rousseau se débat dans une sorte de casuistique où il fait appel à toutes sortes de sources qu'il ne cite pas, d'ailleurs, aussi bien les philosophes, les jurisconsultes, les philosophes du droit naturel, les pères de l'Église, etc. Même les mots par lesquels vous avez commencé, j'ai lu dans un livre de philosophie, il ne cite pas quel livre de philosophie. Il s'agit d'un livre, précisément d'un de ses adversaires, les philosophes modernes, qui est Helvétius, se trouve dans le livre de l'esprit d'Helvétius. Donc, il y a dans cette réflexion sur le mensonge beaucoup de, on dirait, d'embarras, d'argumentation qui semble assez de mauvaise foi. Bon, mais Ce qui me paraît très important, c'est de voir comment la promenade commence. Hein. Toutes les promenades, en général, ça commence par une provocation. Ils tombent sur quelque chose. Et là, en feuilletant un jour des vieux papiers, il tombe sur un journal qui lui est dédicacé, dans lequel un de ses anciens amis proches, qui était un botaniste comme lui, l'abbé Rosier, lui dédicace son journal en lui citant de façon inversée la devise qu'il s'est choisie. Bon, la devise qu'il s'est choisie, Rousseau, c'est « Vitam impendere vero ». Elle est prise chez Juvénal, le satiriste latin, et qui signifie « consacrer sa vie à la vérité » ou « au vrai vero ». Hein. Consacrer, sacrifier, vouer sa vie. Bon. Et Rosier lui renvoie son propre message, en quelque sorte, « vero » impendenti vitam, à celui qui a consacré sa vie à la vérité. Et Rousseau prend ça comme un sarcasme de Rosier qui lui dit « Hé, tu as consacré ta vie à la vérité, mon œil !» Bon, et il est piqué. Et
ce qui montre bien qu'il n'a pas la conscience tranquille, d'ailleurs.
Exactement, exactement. Et il se dit « Mais après tout, il a peut-être raison. » Et vous voyez que le point de départ est fondamental parce que cette devise qu'il s'est choisie, elle soutient, c'est ce que je disais tout à fait en commençant, elle soutient toute son œuvre théorique. On l'a traité de sophiste, c'est-à-dire de quelqu'un qui passe son temps à dire le contraire de ce qu'il pense. Ouais, bien, si effectivement on peut mettre en doute la devise qu'il s'est choisie, alors à ce moment-là, bon, c'est grave. Donc il va partir sur ce coup qui lui est envoyé en s'appuyant sur un traité de Plutarque, comment tirer profit de ses ennemis. Donc, Rosier est un ennemi et il va, jouer contre lui une sorte de duel pour démontrer que quand même, même s'il a pu mentir, mais toujours innocemment. Bon. Même dans le plus criminel, odieux mensonge qu'on puisse imaginer, qui est celui qu'il raconte dans les Confessions, dont il dit d'ailleurs que c'est pour l'avouer qu'au fond il a décidé d'écrire ses Confessions. Le fameux mensonge par lequel il a fait condamner une pauvre jeune fille cuisinière quand il était jeune valet à Turin, à 16 ans, qui s'appelait Marion. Et on parlait hier, vous parliez de l'origine de cette persécution, du complot, etc. Quand on lit dans les Confessions le récit de ce mensonge, où Rousseau dit « J'ai menti, mais pas du tout parce que je détestais la petite Marion, bien au contraire, c'est parce que je l'aimais. »
Racontez-nous quand même le mensonge. À propos de quoi est-ce qu'il ment, Rousseau ?
Il y avait, dans la maison où il était, chez Madame de Vercellis, un certain nombre de choses. Madame de Vercellis meurt, on se prépare pour l'héritage et lui, il chipe un ruban couleur de rose, dit-il. Et ce ruban, il veut le lui donner. Mais on le découvre, il est pris et on lui demande « Où as-tu pris ce ruban ?» le maître de maison. Et il dit « C'est Marion qui me l'a donné. » Et
donc
il s'entête
dans
le mensonge. Et là, il y a quelque chose que la psychanalyse pourrait faire son miel. Hein. Une espèce de transitivisme total. C'est moi qui voulais le lui donner. Je dis que c'était elle qui voulait me le donner. Donc il se met à la place de Marion. Bon. Laissons ça de côté, c'est une analyse extraordinaire. Il faut lire ces pages des Confessions. Ce qui est très intéressant, c'est que à la fin de ce récit, il dit « C'est horrible, c'était un crime horrible, c'était pas ma faute, mais j'ai toujours eu ce remords. » Et il a cette phrase, et je pense que depuis 50 ans que j'ai fait ça, j'entends la voix de Marion dans ma conscience venir me reprocher mon crime. Et il explique en quelque sorte les persécutions dont il est victime, par Hume, par tous ses amis, à ce moment-là, il a cette explication. C'est la punition de mon crime. Tous ces gens-là sont des vengeurs de la petite Marion. Et donc, c'est à partir de cette réflexion sur le mensonge qu'il va engager, sur ce mensonge premier, qu'il va engager cette casuistique extraordinairement complexe qui va le mener à la question, au fond, quand j'ai écrit mes confessions, j'ai promis de dire la vérité, toute la vérité, et pourtant j'ai passé mon temps à mentir dans ma vie. Comment ça se fait ? Et comment ça se fait que je n'en éprouve aucun remords ?
Voilà. Suite à quoi il va décliner les différentes situations dans lesquelles le mensonge est soit nécessaire, soit excusable, soit innocent, ce qui sont autant de termes qui seraient inacceptables d'un point de vue purement déontologique en disant « mais non, le mensonge est proscrit, quelle que soit la situation ». Dans le texte que j'ai lu pour introduire à cette quatrième promenade, il prend un exemple à la fin du texte que je crois « le sable qui est au fond de la mer blanc ou rouge, cela ne n'importe pas plus que d'ignorer de quelle couleur il est. Comment pourrait-on être injuste en ne nuisant à personne, puisque l'injustice ne consiste que dans le tort fait à autrui ?» En fait, ce qu'il dit, c'est que l'on peut mentir innocemment. Ça, c'est très important pour lui, parce que ce qui importe par-dessus tout, c'est que l'homme reste bon et soit innocent.
Oui. Son idée, c'est que vérité et justice sont synonymes. Il a cette formule. C'est un peu surprenant. Mais la vérité, ce qu'il appelle la vérité utile, il faut la partager. La vérité doit se partager quand elle est utile. Si je ne la partage pas, c'est-à-dire si je me tais ou si je dis le contraire, à ce moment-là, c'est un vol à l'égard de mon prochain. Bon. Mais il y a des vérités qui sont totalement inutiles. Et à partir du moment où elles sont inutiles, qu'est-ce que ça peut faire que je dise la vérité, que je ne la dise pas ou que je dise le contraire ? Bon. Et à ce moment-là, il va faire des distinctions à l'intérieur de ces cas-là. Et notamment une distinction à laquelle il a absolument besoin d'arriver, on le sent bien, où il va dire, y a des non-vérités qui peuvent être parfaitement, qui peuvent aller même jusqu'à des mensonges, et qui sont totalement innocentes, ce sont les fictions. Il y a une théorie de la fiction tout à fait intéressante. En général, bon, pour la littérature de l'époque, etc., mais surtout pour lui. Parce que ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il va prendre un exemple de fiction, de roman. Et c'est un exemple, c'est Le Temple de Gnide, bon, qui est un ouvrage de Montesquieu. Il ne cite pas l'auteur. Il a inventé l'histoire d'un manuscrit trouvé, traduit du grec, etc. Bon. C'est un mensonge, éhonté, personne ne va croire ça. Mais on ne lui en reprochera pas. Pourquoi est-ce qu'il a été chercher Montesquieu qu'il admire ? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé, lui, de son propre cas ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de la nouvelle Héloïse, qui est exactement sur la même structure d'un manuscrit trouvé, qui est une histoire d'amour, comme le temple de Gnide, et tout se passe comme s'il prenait, au fond, Montesquieu, qu'il admire, qui est respecté, qui est inattaquable comme grand homme, pour faire pardonner à Montesquieu sa fiction, et a fortiori, pour se faire pardonner à lui, sa nouvelle Héloïse, puisqu'on lui a reproché, lui, qui avait fait sa devise Vitam impendere vero, de produire des romans comme n'importe quel inventeur de mensonges.
Ce qui serait au fond une stratégie pour se faire pardonner. Alors certes, il ne ment pas ou il ment par omission. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, il fasse preuve d'un courage sans nom.
Oui, non, il ne s'agit pas de courage.
Mais ça ne l'intéresse pas trop, le courage.
Il s'agit d'habileté. La question, là, de savoir, quand on lit ça, on a l'impression qu'il essaye de convaincre un lecteur. Hein? Bon, vraiment, là, on a une casuistique. Et en même temps, il annonce ses rêveries comme un dialogue de soi-même avec soi-même. Je me relirai, chaque fois que je me relirai, me rendra la jouissance, etc. On a
On ne sait pas qu'est-ce qu'il vise, à qui il s'adresse, est-ce que c'est lui-même qu'il veut convaincre. Je crois qu'il faut rester dans cette espèce de flottement, d'indécidabilité.
Propice à la rêverie. Alors, en tout cas, le texte avance et il examine différents cas. Et il raconte une scène où, lors d'un dîner, on lui demande si lui, Rousseau, connu pour avoir confié ses enfants à l'assistance publique, qui est notre façon de dire abandonner ses enfants, si lui donc a eu des enfants, on lui pose la question innocemment. Et lui, pris de court, mort de honte sans doute, il répond que non, sachant très bien que c'est la réponse que ses convives attendaient qu'il fasse et que son mensonge est démasqué. Et qu'en même temps, il ne pouvait pas faire autrement. Il explique pourquoi il justifie sa réponse. Il sait que c'est un mensonge, me dit-il. C'est la honte qui l'a conduit à prononcer ce nom, car il n'a pas eu le temps d'envisager d'autres réponses possibles. On va nous-mêmes faire un détour par la fiction, puisque Rousseau en parle. Une fiction qui met en scène exactement la même chose, cette fois-ci non pas avec la honte, mais la pudeur. La pudeur qui peut conduire à convoquer un mensonge pour expliquer une situation. Écoutez cet extrait de César, le film de Marcel Pagnol.
Césario nous a révélé le but de son voyage. Une visite à un ami. Eh bien, moi, je dis que cet ami, I, est une amie,
I. Yeah.
Et moi, je prétends que si le jeune homme a dit qu'il allait voir un ami, I, il n'y a pas de raison qu'il allait voir une amie, I. Yeah. Et pour quelle raison?
Parce que par pudeur, il ment. Sais-tu ce que c'est que de mentir? As-tu entendu parler du mensonge?
Là, César, tu vas un peu loin. À moi, il me demande si je sais ce que c'est que le mensonge. Moi qui le connais par cœur, moi qui le pratique depuis ma naissance, j'ai menti à ma nourrice, j'ai menti à ma mère, j'ai menti à mon père, j'ai menti à mes frères, j'ai menti à mon quartier maître, j'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes amis. Ouais, 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 je vous ai menti à tous.
Et ce menteur affirme que Césario ne ment pas. Et à son avis, il va vraiment chez un ami. Pourquoi te mentirait-il à toi?
Je lui ai dit plus de 100 fois, mais c'est un mot qu'il ne comprend pas. Par pudeur. La pudeur, c'est un sentiment délicat, nuancé. C'est un sentiment très fin, très joli. C'est le contraire de l'escarte-figuerie.
L'escarte-figuerie, le mot est inventé par Pagnol, il est sublime parce qu'il les désigne exactement. Enfin, on voit très bien ce qu'il désigne au moment où il l'invente. Escartefix, c'est le personnage auquel parle César et celui qui prend très mal le fait qu'on l'accuse de ne pas savoir mentir. Toute la nuance est dans cette pudeur et l'escartefigurie. D'un côté, ce qui fait qu'on masque la vérité parce qu'on n'ose pas parler de ses sentiments. Et de l'autre, au contraire, le fait d'assumer à outrance une vérité, ce qui parfois est aussi une bonne manière de se détourner de l'authenticité. Hein. C'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on a forcément raison, qu'on est forcément sincère. Ici, on est dans une perspective rousseauiste, Alain Gros-Richard, hein, ce que César appelle la pudeur, c'est là que décrit Rousseau.
Oui, ça, le thème de ce que Rousseau appelle non pas la honte, mais la fausse honte ou la mauvaise honte, qui est la traduction d'un mot utilisé par Plutarque dans ses œuvres morales, qui a beaucoup lu Rousseau, bien sûr, et qui en grec, le mot grec, c'est « dus opia », qui traduit mot à mot, veut dire « dus », c'est difficile, et « opia », le regard. La mauvaise honte, c'est l'incapacité à supporter le regard de l'autre. Donc, l'image qu'on renvoie à l'autre. Image qui, selon Rousseau, précisément, ne correspond pas à ce qu'il est réellement. Il est toujours, au fond, paralysé, induit à faire des lapsus, des mensonges, à parler sans savoir ce qu'il va dire, et notamment lorsque, évidemment, on le questionne sur une question aussi fondamentale que l'abandon de ses enfants. C'est la seule apparition dans ce truc sur les mensonges du grand thème de l'abandon de ses enfants, qu'il n'a jamais avoué ouvertement, sauf une fois, assez tôt, en 1751, à Madame de Franqueuil, une amie, au moment où il venait d'avoir son troisième enfant qu'il avait mis aux enfants trouvés, mais il l'écrit dans une lettre chiffrée. Il ne l'avoue pas en toute lettre, il l'avoue dans une lettre chiffrée.
Il n'en parle pas dans les confessions.
Ah, il en parle dans les confessions, mais les confessions, sont faites pour être publiées longtemps après sa mort. Donc, de son vivant, en principe, personne ne doit le savoir. On l'a su, il l'a dit quand même. Bien. Et alors là, dans cette scène très amusante, en effet, il sait qu'on lui tend un piège. Il tombe dans le piège et c'est après, avec l'esprit de l'escalier, qu'il trouve ce qu'il aurait dû répondre. Mademoiselle, aurait-il dû dire à cette jeune femme, voilà une question bien indiscrète à faire à quelqu'un qui a vieilli garçon, c'est-à-dire célibataire. Ce qui est encore une bourde, finalement, puisque sa femme, Thérèse, est là. Donc, quelqu'un qui a vieilli garçon, alors qu'il a sa femme à ses côtés qui a eu les 5 enfants et qu'il a forcé d'abandonner. Il y a dans ce récit quelque chose de trouble, de louche, d'autant plus que l'indication que sa femme est là, c'est un rajout a posteriori sur le manuscrit.
Ce qui rend encore plus suspicieux le lecteur qui voit cette mise en scène de lui-même et qui se dit que finalement la vérité pour Rousseau est bien souvent un alibi pour faire passer autre chose et que c'est souvent la vérité contre autre chose. Ici, ce serait une forme de vérité contre le respect de son épouse, par exemple.
Oui, je sais pas si on peut parler d'alibi. Il faut suivre le fil de cette réflexion qui va le conduire quand même. Alors, il va parler de ses confessions et on pourra en reparler un petit peu, mais ça va aboutir à ce retour de souvenirs. Il dit oui, j'ai écrit mes confessions, j'ai raconté beaucoup de mes défauts. sans indulgence, mais j'aurais pu parler de ce que j'ai fait de très bien et justement je me suis tue là et c'est le moment maintenant.
Mais je vais le faire, voilà. Il y a quand même l'envie aussi de montrer qu'il a fait du bien, de ne pas simplement se jeter la pierre en permanence.
C'est ça, parce qu'il dit la vérité, c'est ne pas calomnier les autres, racontez-nous. Mais c'est aussi ne pas se calomnier soi-même. Et là, je tiens quand même à dire que je me suis un peu calomnié par omission dans mes confessions. Je vais vous raconter deux histoires de mon enfance. Alors, c'est des histoires où il se fait casser la figure, assommé complètement par un petit copain, et au lieu de se venger sur le petit copain, il est toujours une victime qui pourrait se venger et qui, au contraire, fait tout pour que son bourreau ne soit pas accusé. Et il dit, j'ai encore les traces, j'ai encore la cicatrice sur mes doigts de la blessure qu'il m'a faite, ce petit cousin. Il pourrait l'exhiber comme preuve, ce doigt cicatrisé. Il y a une thématique du souvenir cicatrice chez Rousseau qui est très intéressante. Déjà, la fameuse scène inaugurale de Mucius Scaevola, vous savez, quand au tout début des confessions, il lit avec son père l'aventure de Mucius Scaevola, le fameux jeune héros romain qui met sa main sur un réchaud devant l'ennemi, le roi Porsena, pour mentir en mentant. Et qui se brûle la main. Il y a une espèce de cicatrice qui reste sur la main qui écrit ce que nous lisons. De même qu'il y a la cicatrice des doigts.
Mais la cicatrice est nécessaire pour quiconque se vit comme une victime parce qu'elle est la preuve que nous avons souffert.
Oui, ce sont les stigmates, mais les stigmates qui vous élèvent dans la position de la victime un peu expiatoire, mais qui est innocente.
Ce qui est étonnant, c'est que dans le titre même des confessions semble inviter Rousseau au maximum d'authenticité, d'aveu, lui qui tient tellement à être du côté de la vérité, du côté de la sincérité, et qu'on découvre dans les rêveries qu'il y a comme un pendant en fait à certaines choses qu'il n'a pas forcément dit. Un pendant qui serait peut-être davantage du côté du bien, pas simplement du côté du mal, pas de l'aveu, mais aussi de la reconnaissance des choses plus positives qu'il a pu faire. Il y a une dimension quand même très morale sur le fond Alors que sur la forme, dans sa manière de rédiger ses promenades, même si on est sur le ton de la rêverie, on voit bien que finalement le Rousseau, le personnage de Rousseau semble plus sympathique que la pensée qu'il essaye de théoriser.
Bon, ça, c'est une affaire plus sympathique, je ne sais pas.
C'est sans doute exécrable, mais en tout cas, c'est un personnage plus intéressant parce que contradictoire, alors que sur le fond, c'est sa grande moralité est parfois glaçante.
Oui, oui, mais justement, ce qui est passionnant, là, c'est que les rêveries du promeneur solitaire, il se découvre contradictoire, il se découvre divisé, ou il se découvre, bon, il se surprend lui-même. Quand il dit, est-ce que vraiment, quand j'avais pensé que le connais-toi toi-même du temple de Delphes devait être ma ligne de conduite, je croyais que c'était simple, et je m'aperçois que c'est extrêmement compliqué. Ce que je voudrais ajouter, toujours à propos de ce choix de la devise dont il essaye de montrer qu'il lui a été quand même fidèle, malgré quelques égarements et des fictions et des mensonges, au moment d'écrire ses confessions, au moment où il fait le projet d'écrire ses confessions, on lui demande des portraits de lui. Son éditeur veut faire mettre un portrait, un ensemble d'œuvres qu'il va republier. Et Rousseau refuse dans un premier temps. Pas de portrait, je veux pas de portrait. Parce qu'il pense que les confessions seront son véritable portrait. Et à la fin, il cède. Et il dit oui, je veux bien un portrait, mais sous le portrait, pas mon nom. Simplement ma devise. Parce que ma devise suffit à me nommer.
Donc la devise, consacrer sa vie au vrai.
Il faut voir que cette devise, ça devient en quelque sorte son nom propre. Dieu sait pourtant s'il a eu des pseudonymes dans sa vie, qui s'est inventé des faux noms. Non, ce portrait, et c'est un portrait qu'il veut de face, qu'on le voit de face avec Vitamine Pandere Vero, et surtout pas de profil. Parce que, et on retrouve ça dans le préambule des confessions, il accuse quelqu'un comme Montaigne de s'être peint, en prétendant dire la vérité, mais de s'être peint de profil.
Ressemblant, mais de profil.
Ressemblant, mais de profil, si bien qu'on ne sait pas si du côté qui est caché, il n'y a pas une balafre ou un œil crevé. Vous voyez la cicatrice. Et dit, moi, voilà, je me montre de face, je cache rien, voilà mes cicatrices.
Montaigne se peint de profil, quant à moi, je suis un homme, un vrai. Dit-il, voici la définition qu'il propose de l'homme vrai.
J'ai vu de ces gens qu'on appelle vrais dans le monde. Toute leur véracité s'épuise dans les conversations oiseuses à citer fidèlement les lieux, les temps, les personnes, à ne se permettre aucune fiction, à ne broder aucune circonstance, à ne rien exagérer. En tout ce qui ne touche point à leur intérêt, ils sont dans leur narration de la plus inviolable fidélité. Mais s'agit-il de traiter quelque affaire qui les regarde, de narrer quelque fait qui leur touche de près, toutes les couleurs sont employées pour présenter les choses sous le jour qui leur est le plus avantageux. Et si le mensonge leur est utile, et qu'ils s'abstiennent de le dire eux-mêmes, ils le favorisent avec adresse, et font en sorte qu'on l'adopte sans le leur pouvoir imputer. Ainsi veut la prudence. Adieu la véracité. L'homme que j'appelle vrai fait tout le contraire. En chose parfaitement indifférente, la vérité, qu'alors l'autre respecte si fort, le touche fort peu, et il ne se fera guère de scrupules d'amuser une compagnie par des faits controuvés dont il ne résulte aucun jugement injuste, ni pour ni contre qui que ce soit, vivant ou mort. Mais tout discours qui produit pour quelqu'un profit ou dommage, estime ou mépris, louange ou blâme contre la justice et la vérité, est un mensonge qui jamais n'approchera de son cœur, ni de sa bouche, ni de sa plume. Il est solidement vrai, même contre son intérêt, quoiqu'il se pique assez peu de l'être dans les conversations oiseuses. Il est vrai en ce qu'il ne cherche à tromper personne, qu'il est aussi fidèle à la vérité qu'il accuse qu'à celle qu'il honore, et qu'il n'en impose jamais pour son avantage ni pour nuire à son ennemi. La différence donc qu'il y a entre mon homme vrai et l'autre est que celui du monde est très rigoureusement fidèle à toute vérité qui ne lui coûte rien, mais pas au-delà, et que le mien ne la sert jamais si fidèlement que quand il faut s'immoler pour elle.
C'est amusant de constater le décalage entre l'homme que Rousseau appelle vrai et la manière qu'il a de se dépeindre lui-même. On se demande en fait si vraiment il appartient à cette catégorie de l'homme vrai. Est-ce qu'il existe cet homme vrai tel que le dépeint Rousseau, Alain Gros Richard ?
Là, c'est la méthode de Rousseau, ça. Il définit un type et ensuite il le définit de telle sorte que tout le monde peut reconnaître que c'est de lui qu'il parle. Mais il ne parle pas de lui, il parle d'un type. Bon, Et il se trouve qu'il a tous les caractères de ce type. Alors, ce qu'il dit là, vers la fin de cette promenade, c'est son rapport extrêmement compliqué avec les mots, avec les signifiants. Bon, comme sujet du signifiant, il est un magnifique exemple qui plairait aux psychanalystes parce qu'il passe son temps, quand il parle dans un salon, à faire des lapsus au lieu de faire de l'esprit. Bon, les gens qui font de l'esprit, c'est des gens qui savent concerter un lapsus. Lui, chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une sottise, constate-t-il. C'est pour ça, dit-il, j'ai choisi d'écrire et de me cacher au lieu de parler, bon, et de me cacher pour écrire et pour me montrer tel que je suis. Bon. Seulement, en écrivant, il lui arrive aussi de se cacher et de se révéler malgré lui à travers des lapsus ou des... Ça, la lecture du manuscrit des rêveries est pour là très intéressante, mais on ne peut pas en développer là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est à propos de ces difficultés avec la langue, il donne quelques exemples qui ne sont pas forcément dans les confessions, mais par exemple, dans Émile, à propos des femmes. C'est très d'actualité actuellement sur les agressions, etc. Il se pose la question, a-t-on raison de dire que toutes les femmes sont fausses ? C'est ce qui court. Hein. Les femmes sont fausses, nous dit-on. Il dit non. Dans les vrais penchants de leur sexe, même en mentant, elles ne sont point fausses. Donc voilà quelque chose, on retrouve le mensonge, l'homme vrai ou la femme vraie. Elles ne sont point fausses, pourquoi ? Parce que quand elles mentent toujours avec un accent tel que l'accent vient corriger ce que pourrait avoir de contraire la chose. La bouche dit toujours non devant l'homme qui lui fait la cour, par exemple, et doit le dire, mais l'accent qu'elle y joint n'est pas toujours le même, et cet accent ne sait point mentir. L'accent, c'est ce qui vient du cœur, et ce qui permet de, au fond, de dédouaner le signifiant qui dit non. Donc il y a quelque chose là où le cœur dit la vérité. Et inversement, un autre exemple, le langage de l'amour. En français, on ne peut plus dire « je vous aime ». Voilà l'exemple qu'il donne dans la lettre à D'Alembert. Il me semble qu'après un langage aussi véhément, le langage des yeux, du cœur qui bat, etc., si l'amant venait à dire une seule fois « je vous aime », l'amante indignée lui dirait « vous ne m'aimez plus » et ne le reverrait de sa vie. Donc il y a dans la langue quelque chose du mensonge qui est écrit fondamentalement et qu'il faut essayer de trouver les moyens. Par la musique, quelquefois, par l'accent.
Par la chanson, par exemple. Par la chanson. Une des solutions de contourner ce que vous pointez là, ce que Rousseau pointe, c'est de dire « Le jour, je dis la vérité, la nuit, je mens. »
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique.
Merci beaucoup Alain Gros-Richard d'être venu nous parler de Rousseau aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous aussi.
C'est un grand plaisir de vous entendre nous conter ces rêveries. De vous, on peut lire une introduction au traité de la botanique de Rousseau avec Jean-Marc Drouin et puis aussi une édition critique des œuvres complètes de Rousseau en Garnier Flammarion, et vous me dites qu'elles vont bientôt être publiées en poche.
Oui, c'est une édition faite avec mon ami François Jacob. Ça va paraître en poche très bientôt.
Quelle bonne nouvelle, merci à vous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure comme tous les jours de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez d'actualité en lien avec la philosophie. Alors, quelle actualité a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien, le livre qui a retenu aujourd'hui mon attention porte certes sur un philosophe, mais pas pour le célébrer, pour, je cite, le démolir. Ce livre, c'est un essai de René Pommier qui, après avoir eu, je cite aussi comme cible, Freud, ce déjanté, ce fou qui avait tout faux, René Girard, cet allumé qui se prend pour un phare, ou encore Thérèse d'Avila, très sainte et cintrée, eh bien, René Pommier s'attaque cette fois, mais ce n'est pas la première, à un minable, une nullité, et même celui qu'il appelle une baudruche, Roland Barthes.
J'aime la salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d'amande, l'odeur du foin coupé, les roses, les pivoines, la lavande, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Handel, les promenades mesurées, les poires, les pêches blanches ou de vigne, les cerises, les couleurs, les montres, les stylos, les plumes à écrire.
Grotesque de notre temps, grotesque de tous les temps, c'est le sous-titre de cet essai de René Pommier, qu'on ne peut pas dire consacré ni dédié à Roland Barthes, dont on vient d'entendre la voix, mais du moins un essai qui porte sur lui et toute l'avalanche de bêtises qu'il a pu dire. Et c'est bien ça qui m'a intéressée avec cet essai. D'abord, la question toute particulière de « mais pourquoi donc parler d'un auteur qui nous insupporte ?» C'est donc une première question bien psychologique, même intime, qui ne regarde au fond que René Pommier, mais que l'on pourrait en fait élargir à chacun et inverser en « mais pourquoi faudrait-il à tout prix étudier ou lire d'ailleurs uniquement les philosophes ou écrivains que l'on aime ?» Et c'est ce qui m'a amené à cette seconde série de questions. Pourquoi, dans le cas de Barthes, est-il tant célébré aujourd'hui ? Tant de colloques, d'émissions, de republications de son œuvre. Pourquoi l'aime-t-on ? L'aimer permettrait-il de mieux le lire ? Ou encore, l'amour serait-il forcément d'ailleurs la meilleure condition pour le lire, bien le lire ?
Il y a trois Méditerranées dans Racine, l'antique, la juive et la byzantine. Mais poétiquement, ces trois espaces ne forment qu'un seul complexe d'eau, de poussière et de feu. Les grands lieux tragiques sont des terres arides, resserrées entre la mer et le désert, l'ombre et le soleil, portées à l'état absolu. Il suffit de visiter aujourd'hui la Grèce pour comprendre la violence de la petitesse et combien la tragédie racinienne, par sa nature contrainte, s'accorde à ces lieux que Racine n'avait jamais vus.
Voilà, c'était un extrait de Sur Racine, écrit par Roland Barthes. Et toute la critique de René Pommier a commencé dès sa thèse par ce livre de commande, peu relu selon lui, auquel il a donc consacré sa thèse. Et tout se poursuit ici, dans ce livre, grotesque de notre temps, grotesque de tous les temps, avec les analyses que Barthes a proposées de Balzac, Sade, Racine, encore, sans oublier le florilège de bêtises dans Le plaisir du texte ou les mythologies. Alors qu'est-ce que reproche précisément René Pommier à Roland Barthes ? Eh bien, on peut dire à peu près tout, d'avoir dit des bêtises, ce qui est d'ailleurs drôle pour un penseur que la bêtise fascinait, mais d'abord, il lui reproche ce que Pommier appelle ses jobartiens ou barthassiens, une sorte de cour qui a mythifié Barthes. Et on serait tenté de voir là un comble. Barthes serait-il devenu une mythologie à lui seul, c'est-à-dire une de ces manies de l'époque qu'on fait, qu'on croit sans la questionner. René Pommier serait-il alors le seul à être lucide face à cette mythologie ? Son livre se présente en tout cas comme ce qui fait la lumière face au reste du monde sur les erreurs de Barthes, tel par exemple son refus de l'explication traditionnelle d'un texte, et pire, sa méconnaissance des auteurs qu'il commente.
Je crois que je peux dire que j'ai à peu près lu Michelet phrase par phrase, enfin j'en suis peut-être pas tellement sûr d'ailleurs. Mais autrement, il y a finalement peu d'auteurs dont je pourrais dire en toute honnêteté que je l'ai lu intégralement.
Racine peut-être, non ?
Oui, enfin c'est pas très long. C'est pas très long, donc on peut le lire en entier. Puis là, c'est le même phénomène que pour Michelet. Les vers appellent effectivement une consommation discontinue, en quelque sorte. Mais je dirais même ça, on ne le lit pas en entier, n'est-ce pas ? Les gens sautent les dissertations, en général. Mmh. Et même si on lit les dissertations, on ne lit pas tout. Alors, je ne sais pas très bien qui on lit en entier.
Question classique, sait-on quand on a bien lu un auteur ? Barthes lui-même le reconnaissait, il ne lisait pas tout, pas en entier, pas très bien, ce qui ne l'a pas empêché d'être écouté, trop et mal peut-être aussi, mais d'avoir des analyses qui portent et donnent envie de lire. Au contraire, René Pommier, lui, a très bien lu, en tout cas en entier, Roland Barthes, et pourtant, si l'amour n'est sûrement pas la condition d'élucidation d'un auteur, bien au contraire, la détestation qui, certes, peut éclairer, peut attirer, peut faire tomber les illusions, donne soit envie de lire l'auteur démoli, soit dégoûte à jamais des querelles littéraires et de la lecture tout court, ce qui est bien paradoxal pour un tel essai de littérature. Je rappelle le titre de ce livre, c'est Roland Barthes, grotesque de notre temps, grotesque de tous les temps. Vous pouvez le lire, ça vous donnera envie de lire Barthes, et c'est de René Pommier, et c'est paru aux éditions Quimet.
Merci Géraldine, et votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Claire Perriman-Holt, Louis Servet, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless qui nous prête sa voix pour les textes de Rousseau cette semaine également. On se retrouve demain pour la suite de nos promenades au sein des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Demain, nous parlerons du sentiment de l'existence, des rêveries magnifiques, en compagnie de la philosophe Céline Spector. D'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, en promenade aussi, bien sûr, et pourquoi pas. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. Restez à l'écoute sur France Culture, nous on se retrouve demain à 10h, mais à midi vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesbert. Et tout de suite, Florian Delorme pour son émission Culture Monde.